Alors j'aimerais partager avec vous un message tiré de la Bible et qui s'appelle « Les trois appels à l'évangélisation ». Et vous allez me dire quels sont les trois appels à l'évangélisation. Alors je vais vous le dire. L'appel d'en haut, hein, là évidemment vous voyez qui c'est qui nous appelle d'en haut. L'appel d'en bas, hein, qui c'est qui nous appelle en bas à évangéliser, hein. Et puis aussi l'appel intérieur, hein. Il y a à l'intérieur un appel aussi à partager l'évangile, à annoncer l'évangile. Alors, je commence toujours en posant une question piège. Quelle est la première personne dans la Bible qui a annoncé l'évangile? Alors, je vous le dis, c'est une question piège. Alors, qui c'est qui va me donner la réponse? Alors, pas dans la Bible, dans le Nouveau Testament, excusez-moi, si je me trompe dans la question, ça va pas. Hein. Dans le Nouveau Testament, qui est le premier à avoir annoncé l'Évangile? Alors, j'ai Pierre, hein, mais avant Pierre. Hein? Jean-Baptiste, avant Jean-Baptiste. Hein? C'est pas Jésus non plus. Avant Jésus, qui a annoncé l'Évangile? J'entends plus. Non, mais dans le Nouveau Testament, Ésaïe l'a fait, hein, ouais. Je crois que quelqu'un le dit là-bas, mais j'entends pas. Non, les rois mages, tu es très, très proche, très proche. C'est presque les rois mages, les premiers. Hein? C'est les anges. Ah oui, c'est question piège, hein. Et voilà. En Luc chapitre 2, lorsque Jésus vient juste de naître, les anges apparaissent aux bergers, et ils disent, je vous annonce une bonne nouvelle. Le mot bonne nouvelle, c'est Evangelion, c'est l'évangile qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et les bergers, ils étaient dans la pénombre, dans la nuit, ils gardaient leurs moutons, ils étaient à moitié endormis. Voilà que tout d'un coup, tous les spots s'allument et les anges se mettent à chanter. Ils ont été saisis par cet événement et sont allés voir Jésus tout de suite. Ils sont allés en hâte voir quel était cet événement extraordinaire qui était annoncé par les anges. Alors, je vous pose la question, pourquoi les anges n'annoncent plus l'évangile? S'ils l'ont annoncé le jour de la naissance de Jésus, ils pourraient le faire tous les jours, pourquoi ils ne le font pas? Et voilà, et oui, hein, Dieu leur a pas donné l'autorisation, hein, ça fait drôle hein, de dire ça, hein, d'annoncer l'évangile parce que c'est nous qui en avons été chargés. C'est notre responsabilité de partager l'évangile. Hein. Et donc nous avons ce privilège, si le Seigneur leur permettrait, les anges seraient tout le temps en train de déranger les gens. Hein. À 3h du matin, Macron, réveille-toi, une bonne nouvelle, hein. À 4h du matin, Trump, réveille-toi, une bonne nouvelle. Voilà, ils dérangeraient tout le monde parce qu'ils ont raison. Hein. Il n'y a pas de plus belle nouvelle que ça. Hein. Même s'il y a la paix entre les Palestiniens et Israël, c'est pas une bonne nouvelle aussi bonne que la naissance du Sauveur. Hein. Mais grâce à Dieu, nous avons cette bonne nouvelle. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qu'on attend pour la partager? Alors, si vous téléphonez au président à 2h du matin, je ne sais pas comment vous serez reçu, hein. Mais en tout cas, hein, on doit partager avec tous les hommes et toutes les femmes cette bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, le Seigneur nous l'a dit en Matthieu chapitre 28, versets 18, 19 et 20. Hein, vous connaissez bien ces versets. C'est les dernières paroles de l'évangile de Matthieu. Jésus s'étant approché, c'est après la résurrection et juste avant l'ascension, et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours, et jusqu'à la fin du monde. » Alors, est-ce que la fin du monde est arrivée? Non, hein. Alors, le Seigneur est avec nous aujourd'hui et tous les jours. Et nous appelle à faire des disciples et à baptiser. Donc, le frère qui va commencer ses préparations au baptême dans 2 semaines, c'est ça, hein? Eh bien, c'est en obéissance à l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur a donné l'ordre que tous ceux qui croient en lui soient baptisés et deviennent des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, à leur tour, ils font des disciples et annoncent l'Évangile. C'est le plan d'évangélisation du Seigneur. Nous allons prier avant d'aller plus loin. Seigneur éternel, tu nous as donné ces trois appels à l'évangélisation et nous voulons t'exalter, te glorifier, te louer de tout notre cœur de ces appels merveilleux et magnifiques. Et merci de ce que tu as mis ce grand trésor dans des vases de terre, des vases fragiles, mais des vases que tu peux purifier pour ton service et pour que ton nom soit glorifié dans nos vies. Et nous t'exaltons, Seigneur, de ta grandeur, ta puissance, ta sainteté. Nous t'exaltons de tout cœur au nom de Christ. Amen. Alors, l'appel que nous trouvons ici, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Donc la première chose, c'est « Allez ». La deuxième chose, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, de partager l'Évangile. Et la troisième, c'est de faire des disciples. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec le fait d'être disciples. Pourquoi ? Alors, peut-être pas dans votre église, Parce qu'un disciple de Jésus-Christ, eh bien, il suit une vie disciplinée. Et aujourd'hui, on ne veut pas faire ça. On veut être avec son téléphone jour et nuit à 4 heures du matin, regarder je ne sais quelle bêtise. Et après, quand il faut se réveiller, avant de partir au travail pour prier et lire la Bible, alors là, il n'y a plus personne. On n'a même plus le temps de déjeuner, on part comme des déterrés. Moi, je les vois les gens le matin. On dirait qu'ils sortent de la tombe. Et ils partent au travail, et puis à 10h, ils se jettent sur je sais pas quoi pour... c'est leur petit déjeuner, Mais c'est pas comme ça, la vie chrétienne, Un disciple, il a une vie disciplinée, Et donc, il se lève le matin, il se présente devant le Seigneur avec la parole de Dieu, la prière. Si vous n'êtes pas réveillé, buvez une tasse de café, ça c'est permis, Et soyez attachés au Seigneur dès le début de la journée, Un disciple... discipliné, Et ensuite, vous partagez l'Évangile dans la journée que le Seigneur a placée devant vous, C'est quelque chose que je suis obligé de rappeler maintenant dans les églises. Avant, tout le monde le faisait, mais maintenant, vous trouvez des chrétiens qui ne lisent pas la Bible tous les jours. Il y a des chrétiens qui lisent pas la Bible tous les jours. Ils disent « Ce matin, j'ai pas le temps, je vais le faire demain. » Ah bon ? Eh bien, alors ne mange pas non plus, Ne bois pas non plus. Voilà, parce que la parole de Dieu est plus importante que de boire et de manger. Et c'est la vie d'un chrétien, ça commence avec la parole de Dieu, ça continue avec la prière, et ça continue avec le témoignage. Sinon, on ne vit pas la vraie vie d'un disciple de Jésus-Christ. Alors Jésus a dit aussi, juste quelques pages plus loin, en Actes chapitre 1, c'est un passage que tout le monde connaît par cœur, Actes chapitre 1, verset 8, Actes 1, 8. C'est juste avant l'ascension, juste avant de partir au ciel, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Alors normalement, vous connaissez bien ce passage, on va juste le rappeler. D'abord, pour le Seigneur nous appelle à être ses témoins, mais quand le Seigneur nous appelle, il nous équipe, il nous a donné une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous. Et même si nous sommes timides, même si nous sommes faibles, même certains sont malades, d'autres ont du mal à s'exprimer, comme Moïse avait du mal à s'exprimer, il disait « j'ai la langue embarrassée ». Eh bien le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, a fait de lui le plus grand de tous les prophètes, sauf Jean-Baptiste. Et donc c'est ce que le Seigneur peut faire dans votre vie aussi, et il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Alors, est-ce qu'on doit aller à Jérusalem pour être témoin, Aldo? Est-ce qu'on déménage l'église à Jérusalem? Hein? Non, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Jérusalem? C'est, voilà, ici, chez nous, hein, Jérusalem, c'était chez eux, et Jérusalem, c'est chez nous. Alors, on commence là où c'est le plus difficile. Hein, il y a quelques semaines, j'ai rappelé les paroles de Jésus, « Nul n'est prophète en son pays. Hein? » Et bien que vous n'ayez pas, vous soyez pas des blancs pâles comme nous, hein? Eh bien, vous êtes dans votre pays ici. Hein? C'est votre pays, hein? C'est, beaucoup sont nés ici, sont d'origine d'ici, eh bien, il faut annoncer l'évangile ici, là d'où vous venez, dans votre famille, dans votre maison, hein, et partager l'évangile de Jésus-Christ là où vous êtes. Et c'est là que c'est le plus difficile, hein, donc votre famille, votre lieu de travail, hein, votre lieu de travail, votre emploi. Ensuite, la Judée, qu'est-ce que c'est la Judée? Hein? Voilà, le voisin un peu plus loin, hein. Et donc toutes les églises ont, comme nous, on a fait cette distribution, ont une évangélisation, une distribution, un partage, une expo Bible, et on évangélise à des gens autour qu'on connaît pas, hein. On partage l'évangile en Judée. Et ensuite la Samarie, qu'est-ce que c'est la Samarie pour nous? C'est encore plus loin. Mais il y a quelque chose de spécial avec les Samaritains, c'est que est-ce que les Juifs et les Samaritains s'entendaient bien? Ah, pas du tout, c'était des ennemis. Hein? Eh bien, le Seigneur, quand vous progressez dans votre vie chrétienne, il va vous dire, voilà, tu as annoncé à ta famille, tu as annoncé autour de toi, maintenant tu vas annoncer l'évangile aux gens que t'aimes pas. Oh! Ah ben non, Seigneur! Je veux annoncer l'évangile aux gens que j'aime bien, hein? Non, aux gens que tu n'aimes pas, hein? Et Jésus est allé plusieurs fois exprès en Samarie, hein? Et même les Samaritains lui ont dit, mais toi tu es juif et tu viens nous annoncer l'évangile. Oui, hein? Il est allé vers les gens qui n'aiment pas, hein? Il a pris l'eau de la fontaine, de la source de Samarie, hein? Et donc, c'est ce que le Seigneur nous appelle. Et ensuite, il nous envoie vers les extrémités du monde, hein. Mais le Seigneur ne nous enverra pas aux extrémités du monde si on n'a pas annoncé l'évangile chez soi, hein. Et donc, quand vous voulez, par exemple, comme je fais partie d'une mission qui s'appelle Amébie, hein, c'est une petite mission française, mais qui a des missionnaires en France, il y en a un en Belgique, voilà, il s'appelle Bayeux, il y en a un en Bulgarie, en Afrique, au Niger, hein, par exemple, hein, il y en avait un moment aussi dans au Cameroun et ailleurs, hein, et donc le Seigneur nous appelle à aller plus loin, mais à chaque fois la mission demande, mais dans votre église, est-ce que vous avez témoigné? Et il demande au pasteur, voilà, le pasteur, donnez-nous un rapport sur cette personne, est-ce qu'elle est un témoin fidèle dans sa maison, dans sa famille, dans son lieu de travail, est-ce qu'elle est de bonne réputation, hein, avant d'aller évangéliser le bout du monde, hein, il faut commencer chez soi, hein. Et donc c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire, hein. Et puis je rappelle simplement ces versets, on ne va pas prendre le temps de le regarder, 2 Timothée 1 verset 7 et 13, car ce n'est pas un esprit de timidité, hein, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous rappeler quand vous êtes pris par la timidité. Hein? Est-ce que ça vient d'en haut? Hein? Est-ce que ça vient du Seigneur? Hein? Non, hein, ça vient de nous-mêmes, des fois c'est psychologique, hein? Ou alors d'en bas, hein, qui cherche à nous empêcher, à nous intimider justement, à ne pas partager l'évangile. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, hein, voilà. Là, cette semaine, je suis allé voir le maire, hein. Est-ce que vous pensez que j'étais à l'aise, hein? J'y suis allé en jean et en basket, hein, et je lui ai dit, voilà, mon pote, hein, vous croyez que j'ai fait comme ça? Pas du tout, hein, voilà. J'ai mis la cravate, je me suis préparé. J'avais sur un papier, au cas où j'oublie ce que je voulais lui dire, parce que des fois on est ému, on en oublie la moitié, donc j'avais ce que j'avais à dire sur un papier. J'avais amené des plans, des photos d'autres églises dans la région qui puissent se faire une idée un peu de ce qu'on voulait faire. Et j'étais prêt, hein. Et quand j'ai parlé, c'était sans timidité parce que j'étais prêt et que le Seigneur m'avait mis à cœur de faire cette demande. Et ils ont été, lui et son adjoint à l'urbanisme, ils ont été tout à fait ouverts et réceptifs. Et le Seigneur nous appelle quand on fait des expos Bibles. Des fois, on fait le premier jour, on fait une inauguration et on invite le député, on invite les journalistes, on invite le maire. Et des fois, ils viennent. Eh ben oui. Alors, il faut les accueillir, il faut leur parler, il faut expliquer. Hein. Je fais une petite visite guidée de l'expo, j'explique. Ils sont toujours pressés, donc on raccourcit un peu pour eux. Hein, mais bon, qu'est-ce que la Bible, son origine, toutes les langues dans lesquelles elle est traduite, les textes originaux en hébreu et en grec. Alors, ils posent toujours la question, est-ce qu'il y a une différence entre les Bibles catholiques et protestantes, etc. Des questions simples, parce qu'ils connaissent pas bien la Bible. Hein. Sauf un ou deux maires en Normandie qui sont des historiens. On a des maires historiens. Alors, eux, ils savent, hein, mais les autres, ils savent pas trop. Hein. Mais c'est, voilà, on partage l'Évangile et notre sans timidité, avec un esprit ouvert, et le Seigneur nous accompagne. Et il touche le cœur de ces personnes et les choses se passent bien. Voilà. Alors ça, c'est l'appel d'en haut. Hein. C'est l'appel de Dieu le Père, de Dieu le Fils et du Saint-Esprit qui nous appelle à l'évangélisation. Mais l'appel d'en bas, hein, d'où vient l'appel d'en bas, hein? Est-ce que c'est le diable qui nous appelle à évangéliser? Je crois pas. Hein. Mais il y a un appel en bas, on va le lire. En Luc chapitre 16, hein, dès que vous allez voir le passage, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Luc chapitre 16, hein, c'est le riche, hein, c'est le riche qui est en train de crier. Hein. Et nous lisons ici en Luc chapitre 16, versets 23 et 24. Hein. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein et s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi qu'il envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Et plus tard, hein, il dit verset 27, « Je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon frère, car j'ai 5 frères, pour qu'il leur atteste ces choses et qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. » Tout d'un coup, il est devenu évangéliste. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Hein. Il faut être évangéliste maintenant, c'est pas après. Hein. Et Jésus, remarquez que Jésus, quand il a raconté cette histoire, il n'a pas dit que c'était une parabole. Hein. Des fois, on dit la parabole du mauvais riche et de Lazare, mais c'est pas écrit parabole. C'est peut-être une vraie histoire qui est vraiment arrivée et que Jésus a raconté cette histoire. Hein. Et cet homme, alors c'est pas le fait qu'il était riche, parce qu'il y a des chrétiens qui sont riches, ça arrive, hein. C'est le fait qu'il était méchant, hein, et que tout, il profitait de la vie, il se réjouissait, en français on appelle ça être hédoniste, hein, vouloir vivre dans le jardin d'Éden, hein, jouir de tous les plaisirs de la vie, bon d'accord. Mais là il y avait un pauvre, pas à l'autre bout du monde, à sa porte, et qui demandait pas qu'on lui donne des billets de 100 euros, il demandait de ramasser des miettes sous la table, hein, eh bien, il aurait pu lui donner ne serait-ce qu'un morceau de pain ou quelque chose, hein, rien du tout, hein, rien du tout. Eh bien, le Seigneur a été choqué par cette façon de vivre, hein, et il a carrément condamné, hein, il a eu une crise cardiaque ou quelque chose, il est mort précipitamment, il était dans le plaisir et dans la richesse, il est mort comme ça, hein, et il est parti dans le lieu de tourment. Et là, il devient évangéliste. C'est trop tard. Hein, il avait des 5 frères. Hein, pourquoi il les a pas évangélisés de son vivant? Son père est toujours vivant. Pourquoi il l'a pas évangélisé? Parce qu'il pensait qu'à son plaisir. Il pensait qu'à jouir de la vie et les plaisirs de la vie. Et il n'a pas partagé l'évangile. Hein. Et on le voit parce que je suis un vieux parisien. Je ne le suis plus maintenant. Hein, mais J'ai participé comme Aldo à l'église de Paris-Centre il y a quelques années, dans les années 80. Et dans les années 80, on était déjà choqués, parce que dans les années 80, il y avait 500 personnes qui toutes les nuits dormaient dehors à Paris. Hein? Donc on était choqués. Mais maintenant, il y en a combien ? 3000. Hein? Il y en a tellement qu'ils n'arrivent pas à les recenser tous, hein, sous les ponts, dans des dehors en tout cas. Hein? Voilà, 3000. Hein? Et moi, je les vois comme vous quand vous traversez Paris. Hein? Vous les avez qui dorment sur la hein? Comment on appelle ça ? Voilà, sur la chaussée, le trottoir, là où il y a la chaleur qui vient du métro, etc. Hein? Devant un immeuble où chaque appartement vaut 1 million, hein, et où les gens qui sont là-dedans, il y a des appartements vides, ils ont des pièces qui servent à rien, etc. Et ils en ont rien à faire que ce gars-là soit comme ça, dans cet état-là, devant chez eux. Mais ces gens-là vont rencontrer le grand propriétaire. Ils sont fiers, hein, nous on est propriétaires de ceci, de cela, mais ils vont rencontrer le propriétaire du monde. Et celui-là, il va leur dire, attention, les règles ici ne sont pas les mêmes. Hein. Dieu n'est pas contre ces gens parce qu'ils ont un bel appartement, ils ont le droit, ils l'ont peut-être hérité, etc. Ils l'ont volé à personne. Hein. Mais vivre dans le confort et laisser les autres dans le froid, hein, il y a une anomalie complète. Hein. Et donc le Seigneur voit, hein, l'endurcissement du cœur des gens, et on le voit surtout dans les grandes villes, hein, mais ailleurs aussi. Hein. Et le Seigneur va agir. Hein. Et donc c'est d'en bas, hein, il y a des gens qui nous appellent. Charles Spurgeon avait commencé un institut biblique qui existe toujours à Londres, et quelqu'un est venu lui demander, mais quelle est la meilleure formation pour vos évangélistes ? Quelle est la meilleure école ? Et Spurgeon a répondu, eh bien à mon avis c'est 15 minutes en enfer. Ah oui, si on prend conscience de la réalité du tourment de ceux qui sont sans Dieu, hein, et pas seulement les flammes, le feu, etc., ça c'est une chose, mais là, cet homme riche, il était tourmenté dans son âme, il pensait à tout le plaisir qu'il a vécu, tout le temps qu'il a perdu et gaspillé sans Dieu. Hein. Et dans cet endroit, il y a des gens qui crient « Allez annoncer l'évangile !» Et ils le feraient eux-mêmes s'ils pouvaient, mais là c'est fini pour eux. Hein. Et Jésus a été très clair, hein. Une fois qu'on est là-bas, c'est fini. On peut pas revenir, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de... rien du tout, hein. Ni limbe, ni purgatoire. Voilà, il n'y a que deux lieux, hein. C'est pas compliqué. Hein. Et donc, c'est quelque chose de très important. Et puis, le dernier appel, hein, parce que l'heure tourne, chers amis, hein, c'est l'appel intérieur, hein, et ça c'est Paul qui en parle souvent, Romains chapitre 1, j'espère que vous avez appris par cœur ce chapitre, hein. Je l'ai appris par cœur quand j'étais à l'Institut biblique hier, oh, il n'y a pas longtemps, hein. Mais comme je l'ai révisé, je m'en souviens encore à peu près, hein, voilà, hein. Versets 15 à 17, voilà, hein. J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et le Seigneur a mis en nous ce désir, et si on lui est fidèle, il devient de plus en plus grand. J'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome. Hein, voilà. Et puis, il y a autre chose pour lequel, là, je pense que vous n'avez jamais prié pour ça, enfin, j'espère que je me trompe, hein, mais priez pour des larmes. Est-ce que vous avez déjà prié pour des larmes? Hein, hein, c'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Hein. Et quand j'étais à l'Institut biblique, à Mantes-la-Jolie, hein, c'était au milieu du siècle dernier, mes pauvres amis, il y avait un étudiant, hein, et il nous disait, mais il faut prier pour des larmes. Je me disais, mais de quoi il raconte celui-là, hein? Mais j'ai vu, hein, alors c'était un Américain, il parlait très mal le français, hein, et il faisait des erreurs et tout ça, Mais il priait, il se levait de bonne heure, tout le monde l'entendait. Hein. Mais comme on est dans un institut, on peut pas lui dire de se taire, hein, parce qu'on est là pour prier. Hein, donc, il priait à haute voix, hein, avant le lever du soleil. Hein, et il priait pour les âmes. Et après, dans la journée, il sortait dans la rue, il allait voir des jeunes, hein, et il leur expliquait l'évangile, et ces gens venaient aux réunions, ces jeunes, hein, ils venaient aux réunions et disaient, ce gars-là, on comprend pas ce qu'il nous a dit, mais on vient quand même. Voilà. Et parce que le Saint-Esprit s'est saisi de lui, a touché ces gens-là et les a amenés. Et nous aussi, quand nous avons ce don des larmes, de pleurer sur ceux qui se perdent, eh bien le Seigneur peut agir à travers nous, même si nous ne parlons pas bien, même si nous ne sommes pas beaux ou pas intelligents, le Seigneur peut tout à fait nous utiliser. Hein. Et on voit que Jésus a pleuré sur Jérusalem. Pierre a pleuré, plusieurs ont pleuré dans la Bible, mais le Seigneur a exaucé leurs prières et leurs pleurs. Hein, et on lit dans le livre de Samuel, hein, Dieu a vu tes larmes. Hein, Dieu parle à la mère de Samuel, à Anne. Dieu a vu tes larmes. Voilà. Alors, pour conclure, hein, on va lire 1 Corinthiens chapitre 9. On le retourne, chers amis. Hein, 1 Corinthiens chapitre 9 et versets 16, 17, 18. Là, Paul, parce que les Corinthiens lui disaient, mais qu'est-ce que tu as à être agité comme ça, toujours vouloir annoncer l'évangile, hein? Eh bien, il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. La nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? D'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Voilà, l'apôtre Paul avait cette charge imposée par le Seigneur. Hein, c'est une nécessité qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et ceux qui sont missionnaires, ceux qui sont évangélistes sont partis parce que ils ont reçu cette charge, ce fardeau de Dieu, et de dire, je peux pas rester chez moi, je peux pas faire autre chose, je dois annoncer l'évangile. Et partout où je vais, j'annonce l'évangile. Dans ma vie longue et courte à la fois, le Seigneur m'a appelé à aller partout en France, en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, et au Tchad, et en Espagne, et dans plein d'autres endroits pour annoncer l'évangile. Hein. Et ce qui est merveilleux, quand on va là-bas et qu'on prêche l'évangile, on s'aperçoit que les chrétiens qu'on trouve sur place sont exactement les mêmes que nous. Ils ont reçu le même esprit, et même si on comprend pas tout ce qu'on dit, etc., eh bien, on est en communion d'esprit, et c'est une grâce extraordinaire de partager l'évangile, comme Paul, hein, qui a voyagé dans de nombreux pays, et bien nous aussi, parfois, nous sommes appelés à aller au loin partager l'évangile avec ceux qui sont perdus. Hein. Et donc, et juste le dernier verset, 2 Corinthiens 5, 11. C'est ce que nous faisons. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Hein. C'est ça qui caractérisait Paul et Pierre et Jean. Hein. C'est qu'ils discutaient avec les gens, ils débattaient avec les gens parce qu'ils voulaient les convaincre. Hein. Ils cherchaient à convaincre les gens. Alors si les gens ne veulent pas écouter et croire, c'est leur problème. Hein. Mais nous cherchons à convaincre les hommes, hein, et à utiliser les arguments de l'esprit, de la parole, de la nature, comme le faisait Jésus, de tout ce que nous connaissons, pour convaincre les hommes de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Alors, chers amis, merci de votre écoute, et nous allons remercier le Seigneur pour ces trois appels à l'évangélisation, l'appel d'en haut, l'appel d'en bas et l'appel de l'intérieur, et chacun d'entre nous est appelé à partager de cette même façon l'évangile. Seigneur éternel, nous te glorifions te bénissons ce matin et te louons de tout notre cœur de ce que d'en haut, d'en bas et de l'intérieur, tu nous appelles à partager ton merveilleux évangile. Et tant que tu n'es pas encore revenu, il est encore temps de partager ta parole avec ceux qui se perdent et avec ceux qui sont dans l'ignorance parfois ou la déception des fausses doctrines. Nous te prions de vraiment nous donner ce privilège de partager l'évangile. Et puis, pendant que nos yeux sont fermés, nos têtes inclinées, peut-être quelqu'un ici ce matin dit: Seigneur, je sais que tu m'as appelé, tu veux que j'évangélise à Jérusalem, dans ma famille, dans mon lieu de travail, parmi mes amis. Je ne l'ai pas fait encore, Seigneur. Dès aujourd'hui, je m'engage à évangéliser à Jérusalem. Peut-être que vous l'avez fait et que le Seigneur vous appelle à aller un petit peu plus loin et annoncer l'évangile en Judée, en Samarie ou jusqu'aux extrémités de la terre. Dites-lui: Seigneur, j'entends l'appel d'en haut, j'entends l'appel d'en bas, j'entends l'appel intérieur. Je veux partir si tu m'appelles et en tout cas partager l'évangile autour de moi. Et puis, si certains ici ce matin n'ont pas encore reçu l'évangile, cru pour eux-mêmes, si ne pas le cœur brûlant du désir et du fardeau que le Seigneur met sur nous, eh bien, donnez votre cœur au Seigneur ce matin. Dites-lui: Seigneur, je connais l'évangile, mais pas comme il faut. Je ne me suis pas donné à toi. Je ne me suis pas repenti de mes péchés. Je n'ai pas mis ma vie en règle avec toi. Je veux me repentir et vivre avec toi ce matin. Et moi aussi, partager l'évangile, passer par les eaux du baptême et vivre dans l'obéissance à Jésus-Christ. Dites-lui: Seigneur, je veux dès ce matin m'engager avec toi de cette manière. Au nom de Christ. Amen.